Les ONG internationales Greenpeace et Global Witness dénoncent l'exploitation illicite du bois et le non-respect des droits des populations riveraines par les industriels du bois de la RDC. Déclaration enregistrée par la Fédération des industriels du bois qui affirme respecter la législation congolaise en la matière. Quelle analyse faire de l'exploitation du bois en RDC? Pour en parler, je reçois Raoul Monsemboula, il est coordonnateur national campagne forêt à Greenpeace Afrique. Monsieur Monsemboula, bonsoir.
Salut.
Gabriel Mola, président de la Fédération des industriels du bois, FIB en sigle. Monsieur Mola, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Mutambu Shango, spécialiste en environnement. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La Fédération des industriels du bois FIB en sigle dénonce ce qu'elle qualifie de campagne médiatique organisée par les ONG Greenpeace et Global Witness contre certains producteurs du bois en RDC. Dans une conférence de presse mardi dernier à Kinshasa, le président de cette association a affirmé que toutes les sociétés membres de la FIB sont en ordre avec la législation congolaise et ne peuvent donc pas être la cible d'un quelconque acharnement. Berry Franklin Luchaka pour les détails.
Tout est parti d'un article publié par Greenpeace en date du 26 mai dernier intitulé « Le chaos de l'exploitation forestière en RDC met les populations et les bonobos au pied du mur ». Dans cet article, l'ONG affirme que les entreprises d'exploitation du bois se soucient très peu de la réglementation, les promesses faites aux communautés forestières n'y sont pas tenues et les institutions gouvernementales montrent peu, voire pas, de volonté politique pour contraindre les entreprises à rendre des comptes et y protéger l'immense patrimoine en ressources naturelles de la RDC. Cet article appuie le dernier rapport de l'ONG qui révèle les conclusions des deux années d'investigation sur les activités de la société libanaise Cotrefort. Selon l'organisation, les résultats sont un mélange déprimant des taxes impayées, des mauvais traitements de ses employés, d'irrégularités dans les procédures opérationnelles et de dépassement des quotas des coupes fixées, par exemple pour des espèces d'arbres menacées telles que l'aphromosia. Pour sa part, la Fédération des industriels du bois estime que Greenpeace relève systématiquement des vieilles accusations dépassées et ne prend pas en compte les efforts mis en place par le gouvernement et les industriels pour assurer une gestion durable de la forêt congolaise avec par exemple le système de traçabilité du bois. Tout en reconnaissant que les difficultés existent, le président de la Fédération des industriels du bois affirme que non seulement les entreprises paient leurs impôts, mais aussi entre 2011 et 2015, elles ont aussi versé 13 millions de dollars de contrepartie aux communautés locales où se trouvent les exploitations. Elles ont créé 15 000 emplois et respectent un plan d'aménagement durable mis en place avec les autorités. Enfin, le représentant du secteur s'étonne que les ONG s'acharnent sur les entreprises industrielles qui n'exploitent que 7% de la surface forestière totale du pays et ne disent rien sur les secteurs informels qui représentent 90% de l'exploitation au Congo en dehors de tout cadre légal.
Merci Berry Franklin Luchaka. Raoul Monsemboula, je rappelle que vous êtes coordonnateur national RDC, campagne forêt à Greenpeace Afrique. Monsieur Monsemboula, qu'est-ce que Greenpeace reproche aux industriels du bois de la RDC?
Bon, je crois que le présentateur a bien parlé de ce que nous avons dit dans notre récent communiqué de presse, qui en fait était clair. Au contraire, moi je voulais plus ne plus parler de ce que nous accusons la société Cotrefort, parce qu'il s'agit de cette société-là. Je pensais plus réagir par rapport au communiqué de presse du président de la FIDE. Donc, je crois qu'il faudra plus me poser des questions dans ce sens-là.
Bon, je pense que cela n'empêche que nous puissions revenir sur le communiqué de presse, parce que ça va dans le même sens et la réponse vous sera donnée tout à l'heure. Vous parlez d'exploitation illicite, de non-respect des droits des populations riveraines, des populations autochtones. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour confirmer ou soutenir ces affirmations?
Oui, c'est comme les rapports le disent, nous avons fait des investigations pendant deux ans ce sont pas les investigations, comme le dit le communiqué de la FIB dépassé, ce sont des faits actuels. Les bois pour lesquels ces allégations ont été faites sont encore dans des différents ports que nous avons cités dans les rapports. Donc il n'y a rien de passé, ce sont des faits actuels. Dans nos enquêtes de terrain, la plupart du temps, c'est moi-même qui le fais. Au moment où nous parlons, même là, je ne suis pas à Kinshasa, donc je continue à faire mon travail malgré les génériques du discours de la cible, donc les faits à Kinshasa. Je continue à faire mon travail par rapport à la vision de Greenpeace. Greenpeace a au maximum posé 15 allégations dans son rapport sur Côte-Fort par rapport aux faits vrais, vérifiés, et dont la FIB avec laquelle, dont je parle de mon ennemi là que je respecte, avec qui nous avons discuté dans notre bureau, et nous on pensait que non. Les 15 allégations auraient pu avoir des réponses, des contre-vérités, des contre-allégations pour démontrer que, point sur point, que les rapports de Greenpeace étaient non fondés. Mais je peux dire, par exemple, que sur le terrain, en parlant des communautés, je prends le cas de Ndobo pour la même société qui a quitté la nuit en Ndobo en août 2013, après avoir coupé du bois pendant 5 ans, avoir signé un cahier de charge avant de couper et que la société n'a pas respecté. M. Mola, qui est avec nous dans ce débat, nous citera ou nous donnera des images ou des précisions sur ce que Côte-Fort a fait à Ndobo. Et nous pouvons refaire cette émission une ou deux semaines après en appelant quelqu'un de Ndobo pour nous donner la vérité sur cette histoire. Ce n'est pas que nous prenons les informations sur l'Internet. Mola sait que moi je voyage. C'est pour vous dire que non, maintenant je ne suis pas à Kinshasa. Je prends encore un autre exemple. On s'est dit, la loi est claire. Nous avons cité dans notre rapport, dans les allégations, quelle allégation était en relation avec quel article de la réglementation. Ce n'est pas qu'on a été vague. Si vous avez les rapports devant vous, vous allez voir que non, chaque allégation faisait état de quel article de l'arrêté ministériel a été enfin.
Monsieur Monsemboula,
par exemple, la promosia ne peut être coupée avec un permis de coupe spécifique.
Monsieur,
nous avons de preuves. C'est écrit. C'est pourquoi je me disais que non. Est-ce qu'il y a point que la Côte-Fort que nous avons acquis des amalgames, de la confusion, comme on dit, nous traduisent en justice et nous allons nous défendre avec les documents que nous avons. Nous avons des archivaux ordinaires qui contiennent la promosia. Mais c'est contre la loi. La loi est claire. L'article dit que non, la promosia étant une essence listée CITES, c'est l'appendice 2, ne peut être coupée que par un permis de spécial. Nous avons trouvé beaucoup chez Portefeuille, par exemple, la Bessalé, quand j'y suis allé, que la société ne coupait que sur des prolongations. Et ces prolongations n'avaient pas de documents officiels autorisés par le ministère. D'abord, le ministère, dans la réglementation, n'a pas un article dans toute la réglementation qui autorise une société de faire la prolongation. Les archivaux, quand vous lisez les archivaux, c'est clair. Les archivaux sont valides du 1er janvier au 31 décembre.
Raoul Monsemboula.
Mais quand une société continue à couper jusqu'au 31 mars de l'année suivante avec la même archivaux, ce n'est pas que nous rencontrons des bêtises.
Raoul Monsemboula. Dans le rapport auquel vous faites allusion concernant Côte-Fort, il est intitulé « Exporter le chaos, l'impact local et international de l'exploitation forestière illégale en RDC ». Vous parlez de 15 allégations, j'ai le rapport sous les yeux, je prends par exemple l'aspect corruption. Donnez-nous un peu plus de détails sur cet aspect.
Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons été à Bifalé. Et nous avons vu le chef du groupement Loma qui nous racontait une histoire très, 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 très spéciale. Il nous dit que non, les gens de la Côte-Fort, moi je suis à 56 km du port. Les gens de la Côte-Fort, quand ils viennent me voir pour signer le bon d'embarquement, ça fait 3 ans que je n'ai jamais vu une seule barge de mes propres yeux, au lieu de m'amener d'aller signer là où il y a la barge pour que je signe, mais ils m'amènent les papiers. Je crains d'abord pour ma sécurité parce qu'en Mbandaka, les gens peuvent croire que non, la quantité de bois qui quitte Baoulou, c'est le port de Côte-Fort à Bifalé. Donc, je connais la vraie quantité. Pourtant, je signe juste parce qu'ils me donnent 30 000 et un sac de sel. Et il y a un système, non seulement à Baoulou, chez Contrefort, mais ça c'est un peu dans toutes les concessions d'exploitation, M. Moula ne va pas me contredire, j'en ai le preuve, où tous les membres des comités de gestion, des comités de sécurité, s'il vous plaît, sont soudoyés par la compagnie. Pour rien.
Merci.
C'est-à-dire qu'ils ne font rien à la compagnie. Ils ont soit du carburant, ils ont soit de l'argent chaque fin du mois.
Merci. Raoul Monsembola, je souffrais que je vous arrête à ce niveau pour donner la parole à Gabriel Mola, président de la Fédération des industriels du bois FIB. En sigle, Monsieur Mola, vous avez réagi dans une conférence de presse, vous rejetez ces allégations. Quels sont vos arguments?
Merci beaucoup. Comme vous venez de le constater, moi aussi je constate que la confusion, l'amalgame demeure dans le chef du coordinateur national de Greenpeace. Il parle de beaucoup de choses. Tantôt il nous renvoie dans son rapport, tantôt il sort du rapport et il mélange tout au point que un auditeur non averti n'arrivait plus à saisir la quintessence de son discours. Ce rapport de Greenpeace, je l'ai devant moi. Il a parlé de 15 griefs. Moi, j'avais pensé qu'on allait procéder méthodologiquement, grief par grief. Mais qu'à cela ne tienne. Moi, je procède de cette manière. Dans le rapport, le premier grief reproché à la Contrefort, c'est que cette société détient des titres illégaux. Je renvoie tout le monde à consulter le site du ministère de l'Environnement et Développement Durable, où la loi dit tous les contrats de concession forestière doivent être publiés dans le site du ministère de l'Environnement. Et dans ce contrat, si vous le lisez, vous le parcourez, vous allez trouver bel et bien que les titres détenus par Contrefort sont légaux. Ils ont été obtenus après la revue légale telle que le décret présidentiel l'avait recommandé.
En bonne et due forme.
En bonne et due forme. Donc je balaye cette allégation.
Allons à l'allégation de corruption.
L'allégation de corruption. C'est malheureux d'affirmer des choses invraisemblables. Il parle du chef de groupement Loma. Je ne connais pas dans là où maintenant, parce qu'il dit qu'il a été récemment. Le chef de groupement Loma, là où exploite Contrefort pour le moment, parce que j'étais là il y a quelque temps. Comment est-ce qu'il y a un responsable de l'administration en charge des forêts, le chef des brigades, qui est dans le chef-lieu du secteur? Comment est-ce que le chef de groupement, on peut l'appeler pour aller constater si ou signer un bon d'embarquement, en qualité de qui? Pendant qu'il y a un chef des brigades de l'environnement dans le secteur, pendant que il y a le superviseur de l'environnement dans le territoire de Béfale. C'est un non-sens. Baoulou, le port de Baoulou, se trouve pratiquement à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu du territoire de Béfale. Et l'accès est facile. Comment est-ce qu'on va faire signer un bon d'embarquement? Et puis, ce bon d'embarquement, c'est quel document? Dans l'exploitation forestière, on n'a pas un document intitulé bon d'embarquement.
Ça n'existe pas. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Allez-y rapidement parce qu'il y a d'autres précisions que nous devrions avoir.
Dans le cadre des relations sociales, le climat de paix entre le concessionnaire forestier et les populations.
Là, c'est au niveau du respect des cahiers des charges.
Non, j'arrive. Lorsqu'il y a eu, en 2008, un atelier sur, si vous voulez, les clauses sociales, il le sait. Ce n'est pas René Gongo qui va me contredire, ancien Greenpeace, que nous, les concessionnaires forestiers, nous avons dit ceci, il y a des PV. Aujourd'hui, la clause sociale devient l'affaire de la communauté et non plus des ayants droit.
C'est-à-dire, en termes simples.
Nous avons dit, nous allons continuer, pour préserver la paix sociale, à signer des conventions entre la société et les ayants droit coutumiers, indépendamment de la clause sociale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand les tronçonneuses, les bulldozers arrivent dans votre forêt, nous négocions avec vous les droits d'entrée comme l'exige la coutume. Et c'est dans ce contexte-là que nous invitons les notables. Nous invitons les ayants droit coutumiers, négocier avec eux pour qu'ils nous donnent le droit d'accès dans leur terroir.
Et donc, en d'autres termes, vous respectez, selon vous,
les coutumes locales. On n'en est pas encore arrivé au niveau des cahiers des charges.
On en parle tout à l'heure. Professeur Mutambwe Shango, vous êtes spécialiste en environnement. Vous comprenez certainement les arguments avancés par M. Mola ainsi que M. Monsemboula. Quelle est votre analyse par rapport à l'exploitation du bois en RDC?
Écoutez, je suis un peu confus et confondu. Parce que, je prends la dernière phrase, il y a signature des accords dans le cadre de l'élaboration des cahiers de charges, donc des signatures entre les concessionnaires et les communautés. Mais dans la gestion, que ce soit des concessions forestières, que ce soit des aires protégées, ou disons dans la gestion durable des ressources, je crois que n'utiliser que ces deux acteurs ou ces trois acteurs, ça n'a pas de sens. C'est lorsqu'on doit définir ou donc on doit élaborer le cahier des charges, on doit utiliser tout le monde. Si aujourd'hui on doit se limiter à la communauté locale, communauté de base, est-ce que ces différentes communautés de base sont au courant du tenant et des aboutissants de ce que la société va récolter? Ça, c'est la première question. On va signer des contrats. Les messieurs qui ne connaissent. Imaginez-vous un vieux papa, le chef coutumier de Béfalé. Je ne sais pas si vous avez une idée de Béfalé pour arriver déjà là-bas. Est-ce qu'il connaît la valeur du bois? Le concessionnaire arrive, d'abord il est là pour chercher son argent, gagner plus sur ses intérêts. Mais la personne qui doit défendre la cause de cette communauté de base est où? C'est là où je ne comprends pas. Les ONG, les différentes ONG, font partie des acteurs. Mais lors des signatures de ces différents contrats, où sont ces ONG? Donc, c'est là où je ne comprends pas. Je me dis, c'est bien beau, on parle beaucoup de choses, des concessions forestières, des signatures de cahiers de charges, mais j'ai dit, mais avec qui et pour qui?
Et donc, selon vous, professeur, il faudrait que chaque fois qu'il devrait y avoir cette signature, qu'il y ait des ONG telles que Greenpeace et d'autres ONG nationales qui accompagnent les communautés locales.
Oui, mais écoutez, lorsqu'on doit signer un cahier de charges, tous les acteurs doivent être là. Il y a des acteurs politiques en commençant même par le chef d'État, doit être au courant. Écoutez, si on doit se référer aujourd'hui à la déclaration de Yaoundé, les chefs d'État se sont engagés à assurer le bien-être de leur population à partir de leurs ressources naturelles. Et c'est ce qui est après la déclaration de Brazzaville qui sont tous arrivés à la création de Comifac. Est-ce que tout ça s'est respecté? Il y a les administratifs. Ensuite, il y a les ONG, il y a les populations locales qui doivent être des ONG, des populations locales, mais des chercheurs. Nous sommes là, les formateurs. Parce que c'est nous qui sommes obligés de former les cadres qui doivent travailler avec toutes ces différentes institutions. On doit être au courant. Est-ce que tout ce monde est réuni lors de l'élaboration des cahiers de charges?
En principe, professeur, qui devrait faire respecter tout ce dont vous parlez?
Je n'accuse personne, mais je crois que c'est l'administration.
Qui ne joue pas son rôle?
Pour moi.
Alors, il y a des allégations de corruption, de non-respect des lois et beaucoup d'autres choses, professeur. Est-ce que vous comprenez ça dans ce secteur?
C'est pourquoi j'ai dit que je suis confus, confondu. Mais tout ça là, l'administration est là. Donc, le ministère de l'Environnement est représenté sur place. Et c'est ce qui devait même défendre les intérêts de la population. Si ce que M. Moussemoula dit est vrai, donc on voit que l'administration, que le garant, ne fait pas ce qu'il devait faire. Donc c'est ça le groupe de problèmes.
Alors, professeur, il y a Serge Cercle, Mazito Kiaka, qui cet internaute qui dit « Vraiment, c'est un problème, comme chez moi, à Bandundouville, il n'y a plus rien comme arbre, même les autorités sont plongées dans cette activité. Le mal encore est que le prix du bois, c'est 12 000 francs, un plateau Poukoupoukou, 25 000 francs, bois rouge, Moulundou, de ça on ne replante pas. Or, dans d'autres pays, le bois est une richesse qui construit le pays. Je me demande où vont les bois de notre pays. Le Congo riche, mais en réalité pauvre.
Si vous me posiez la question, il a pleinement raison. Moi-même, je suis l'homme le plus malheureux. Imaginez-vous que nous, avec tout ce que nous avons comme richesse forestière, on va même faire venir les agglomérés. Il y a des magasins ici qui vous vendent. Vous voyez les copeaux. Les copeaux, moi, directeur de l'ERAIFT, j'ai acheté les équipements pour les étudiants. Après la première pluie, tout foutu. On laisse nos bois, mais les gens qui utilisent les copeaux deviennent riches. Et nous qui avons du bois, des véritables bois, on ne sait pas les exploiter.
C'est... Ne serait-ce pas, professeur, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, parce que ne serait-ce pas le fait qu'on, c'est parce qu'on ignore la véritable valeur du bois congolais?
C'est ce que je peux encore vous dire. Nous avons combien de spécialistes en anatomie du bois? Parce que c'est lui qui peut nous renseigner sur la vraie valeur du bois. Ce sont des spécialistes en anatomie du bois. Il y en a combien? À ma connaissance, il y a un professeur qui est mort à l'université. L'actuel directeur de la direction de développement durable, moi-même j'ai créé, avant de quitter les RAIFT, un laboratoire d'écologie forestière doté d'un laboratoire d'anatomie de bois. Ces laboratoires qui devaient renseigner les autorités des valeurs de nos différentes espèces de bois. Et le laboratoire est couvert de poussière, s'il vous plaît.
Voilà, Raoul Monsemboula, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Moukouli Moupenda Dieudonné de Goma. Ces ONG internationales profitent de nos faiblesses. Parler de l'exploitation illicite veut dire encore que l'autorité de l'État n'est pas significative jusqu'aux extrémités, c'est-à-dire coin recoin du pays. pays ne sont pas contrôlés. En outre, ces accusations ne sont que ballons de jeu pour distraire le gouvernement, étant donné que celui-ci ne contrôle pas suffisamment son entité administrative dont il devait y prendre avec toute énergie. Par ailleurs, toutes ces ONG sont à remettre en cause, car elles ne sont pas d'origine congolo-congolaise, c'est-à-dire Dieu peut accuser Jésus chez les Satan. Autrement dit, Dieu acceptera-t-il de lui sacrifier que le gouvernement reste seulement vigilant et responsable de ce qu'il devait être responsable?
Réaction Raoul Monsemboula.
Oui, mais bon, vous savez, messieurs les journalistes, le monsieur de Goma est libre de penser de sa façon. Et nous sommes dans un domaine stratifié, qui est la forêt, dont chacun, comme venait de le dire le professeur Moutamboué, a quelque chose à faire. Nous, Greenpeace, nous sommes là avec la mission de vérifier ce qui se passe, de dénoncer les illégalités et de le mettre en public de façon à ce que les gouvernements puissent prendre des mesures adéquates pour mettre fin à ces illégalités. Nous ne profitons de rien, mais ce sont... Vous savez, je ne sais pas si à Goma, il y a l'exploitation forestière industrielle. Je ne sais pas si à Goma, le monsieur qui vient de parler a déjà vu ses membres de famille être arrêtés, chicotés et mis en prison juste parce que une clause de cahier de charges qui n'a pas été respectée, les populations sont allées revendiquer et on invite la police. Nous avons beaucoup de cas. Donc, ce que nous faisons, c'est notre mission. Nous n'allons pas au-delà. Nous savons que la mission régalienne fait à l'État congolais, mais écoute, c'est tout le monde qui reconnaît, plutôt qu'il y a un peu de défense, qu'il y a des problèmes assez sérieux. Et à un moment, je me posais même la question si la FIB ne devenait pas la police du gouvernement pour l'aider à bien faire son travail, parce que quand je lis son communiqué de presse, ah, mais c'est comme si la FIB pousse le gouvernement à bien faire le travail.
Alors, vous avez suivi M. Mola balayer d'un revers de la main les différentes allégations contenues dans le rapport que vous avez publié le mois dernier. Comment vous y réagissez?
Non, monsieur les journalistes, les gens du ministère et la société civile environnement, ainsi que les réseaux de ressources naturelles avec qui nous travaillons, se moquent des allégations de Mola. Écoute, il y a eu un moratoire décrété par le président de la République en 2002. Suivez-moi très bien. En 2002, le président de la République a dit qu'on ne peut plus donner des concessions aux sociétés forestières. J'ai dit en août 2002. La société, la Cotrefort, a eu ses deux titres en 2005, s'il vous plaît. J'ai dit les moratoires en 2002. Les deux garanties d'approvisionnement, il y en avait d'ailleurs trois, parce qu'il y avait une à Défalé, l'autre à Bumba, donc une à Bumba, une à Défalé, donc il y en avait trois, je crois. Donc, les trois concessions sont post-moratoires. C'est ça le nez du problème, c'est ça où nous parlons de l'illégalité.
Et à ce moment-là, il y a qui la faute, M. Monsemboula?
Les concessions ont été données en 2005, c'est-à-dire en plein moratoire. Et quand la commission pour la conversion est entrée en jeu, j'ai la lettre du ministre Ndibou dans un communiqué en élan parce que les membres de la commission ont dit que ces trois concessions étaient post-moratoires. J'ai la lettre du ministre Ndungu annulant la requête de conversion de ces trois titres. Mais on était curieux. C'est trois mois après, le même ministre fasse encore une conférence de presse pour remettre ces titres dans la couche.
Raoul Monsemboula.
Oui.
Et donc, si on devrait vous comprendre, le problème se trouverait au niveau du gouvernement.
Non, mais les tout, c'est illégal, même la solution. Tout est illégal parce que si la base n'est pas fondée, le reste, ça suit.
Merci beaucoup. Gabriel Mola, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Litiza Kurimouche Evariste, depuis la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu. Fédération des industriels d'Ibra continueront à nier ces désastres de pauvreté qu'elles s'imposent à la nation congolaise tout entière tant que le gouvernement congolais n'exercera pas de contrôle vigoureux dans l'exploitation de toutes les ressources nationales. N'est-ce pas là la cause principale du contraste population extrêmement pauvre dans un pays scandaleusement riche? La population congolaise attendra encore longtemps si l'on ne révisera pas toutes ces autorisations d'exploitation profitant aux seuls dirigeants du pays. Greenpeace et Global Witness auront inutilement dénoncé.
Réaction, Gabriel Mola.
Monsieur le journaliste, je voudrais d'abord vous demander de m'accorder le même nombre de minutes que vous avez accordé au professeur Mutambwe et à notre ami Raoul Moussenvola.
Ne vous inquiétez pas, vous avez un chrono devant les yeux.
Merci. Il y a la confusion. On vient ici parler de quoi? Moi, je suis venu parler du rapport Greenpeace. Et je m'attendais à ce qu'on épingle les 15 accusations. On parle de clauses sociales, on parle maintenant de l'illégalité, même des actes gouvernementaux, c'est grave. Je commence, avant de répondre à notre ami du Kivu, monsieur le professeur, le processus de négociation et de signature de cahier de charges est connu. Vous avez toujours tendance à considérer les villageois comme des idiots, des gens qui ne connaissent rien, qui ne comprennent rien. Mais je vous dis, ces gens, ils peuvent vous prouver le contraire. Ces gens ont reçu l'accompagnement des ONG nationales et internationales. C'est un processus qui a été financé par la Banque mondiale pour accompagner les communautés locales à négocier et à signer les clauses sociales. Elles ont été au préalable suffisamment édifiées, de telle manière que quand nous sommes allés négocier les clauses sociales, on s'est trouvé devant des gens qui comprenaient ce pourquoi ils étaient venus faire. Encore faut-il maintenant, dans la gestion des infrastructures, dans la réalisation, renforcer leurs capacités pour que de plus en plus ces populations soient performantes. Donc, s'il vous plaît.
Alors, quand vous parlez des réalisations, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif des industriels?
Attendez. Est-ce que vous avez lu le Code forestier? En son article 89, est-ce que vous avez lu l'arrêté 023 sur le modèle de l'accord de la clause sociale? Dans l'article 89, je crois, alinéa C, définit les points essentiels d'une clause sociale. L'arrêté 023 va encore plus loin en ce qu'il fixe le modèle de l'accord. Je peux vous donner quelques éléments.
Très rapidement, quels sont certains éléments?
Les éléments sont les suivants. La société construit des infrastructures socio-économiques en faveur des communautés locales. Et c'est bien énuméré dans le code forestier. Les écoles, les infrastructures de santé, les infrastructures scolaires, l'aménagement des routes, la facilité en matière de transport des personnes et leurs biens.
Et vous confirmez que tout ça a été fait?
Mais tout, j'ai dit bien tout, j'ai même des preuves, parce qu'il n'y a que des gens mal intentionnés qui peuvent affirmer des choses pareilles. Laissez-moi continuer.
Vous allez dépasser d'ici là votre temps, allez-y rapidement.
Laissez-moi continuer. J'en arrive à la situation de Raoul Moussenvoula. Quand il remet en cause, moi j'ai le compte rendu du Conseil de ministres qui était présidé à cette époque-là par son Excellence Monsieur le ministre, le Premier ministre Adolphe Mouzito, où le ministre de l'Environnement est allé poser le problème de ces sociétés qui avaient des codes
d'investissement avec le gouvernement de la République. Ces populations, dans leur cahier des charges, pardon, ces entreprises avaient réalisé les conditions, toutes les conditions demandées par le gouvernement. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement devait faire? Un gouvernement responsable. Cette décision a été prise en conseil de ministres, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Professeur Moutamboué, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga au Kassai occidental.
Moi, je suis Kisambika de Kananga, province du Kassai occidental. J'estime que ces ONG internationales, par le biais de leurs acteurs, ont lié à dénoncer tous ces cas de violation de loi sur l'exploitation des richesses naturelles de la RDC et des droits du peuple autochtone, non pas pour les simples sentiments ou simples plaisirs, mais plutôt parce qu'après avoir constaté le fait et parfois avoir recueilli les doléances des résidents victimes de ces actes. Connaissant comment fonctionne notre pays en matière pénale, surtout lorsque l'incriminé appartient à une force intouchable, il sera au préalable mieux de mener des enquêtes pour savoir au nom de qui ou avec quelle autorisation ces industriels sont admis à exploiter du bois dans cette partie du pays. De ceci, on saura où se situer juridiquement parlant.
Professeur, faut-il des enquêtes sérieuses ou ce sont des faits connus? Qu'est-ce qu'il faudrait pour tirer cette situation au clair? Vous avez suivi les arguments de M. Mola et de Raoul Monsimboula.
Moi, je continue à dire que je suis confus, confondu. On parle de la gestion durable, s'il vous plaît. Tout le monde parle de la gestion durable. Mais je crée à ce que les gens ne comprennent pas ce terme-là, aussi vieux que le monde. Lorsqu'on parle de la gestion durable, déjà, la conférence de Rio, il parle de l'exploitation des différentes ressources qui doivent s'orienter vers l'amélioration des conditions de vie des populations. N'est-ce pas? Amélioration des conditions de vie des populations. Moi, je suis en train de me demander... Qu'est-ce que cette population... Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à exploiter nos ressources forestières. Or, vous partez dans les villages, dans les coins les plus reculés du monde, les gens sont encore plus pauvres qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais vous trouvez dans tous nos documents gestion durable de nos ressources. Mais, je dis, mais on se moque de qui dans ce pays? Mon frère est en train de dire que la population est au courant de tout ce qui se passe. Mais je regrette. Parce que si cette population était au courant de ce qu'il devait avoir, lorsqu'il y a une société qui vient tirer ses ressources naturelles, il devait aujourd'hui avoir de quoi manger, de quoi se soigner, de quoi se déplacer. S'il est incapable, c'est qu'il est exploité. Je regrette, mais c'est ça. Déjà depuis la conférence de Stockholm en 1972, suivie de la conférence de Rio, et dans son agenda 21, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que la population congolaise a déjà tiré profit de ses ressources naturelles? Ça m'étonnerait.
Alors professeur, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la RDC puisse tirer profit de ses ressources?
Déjà, notamment en bois. Déjà, il faut former cette population pour qu'ils puissent comprendre ce que vous appelez la renforcer, comprendre qu'il a des richesses. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils puissent tirer profit de ces richesses? Mais pas quand on est à Kinshasa et qu'on essaie de réfléchir sur la vie de ceux qui sont à l'intérieur. Parce qu'ils ont, pour moi, ils ont échoué.
Alors, la formation suffit-elle, professeur, ou il faudrait mettre des lois en place et les faire appliquer, les respecter aussi?
Mais les lois, je suis en train de faire un projet même sur la gestion des ressources, moi. Des forêts, par exemple, des produits forestiers non liés, source de vie pour nous les Congolais. On ne parle même pas de la gestion, s'il vous plaît. Rien. En effet, la loi, il n'y a qu'un article qui parle de ça. Or, ce sont des produits qui sont à la base même de la dégradation de nos différentes ressources naturelles, tout aussi étant le produit nécessaire pour notre survie. Mais qu'est-ce que les lois disent? Rien, zéro. Vous ne trouvez que quelques articles laconiques et cachés.
Alors, vous parliez tout à l'heure de la gestion durable de nos ressources, notamment du bois, parce que c'est ça le sujet du jour. La RDC pourra-t-elle y arriver un jour?
Oui.
À quelles conditions?
Mais de travailler correctement. Justement, pour moi, il faut que je travaille correctement.
Ça voudrait dire quoi dans les détails?
Écoutez, s'il y a aujourd'hui la confusion entre les concessionnaires, les ONG, l'État, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui en pâtit, sont les populations locales.
Alors, en guise de conclusion pour vous, professeur, comment entrevoir la suite de l'exploitation forestière en RDC ou l'exploitation du bois?
Pour moi, on doit songer. Les choses sont claires. Si on respecte ce que je viens de dire ici, les lois, les propositions de Rio, l'agenda 21, donc l'utilisation, l'équilibre entre les usagers, je crois qu'on pourra s'en sortir.
Raoul Monsemboula, il nous reste au moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Le professeur parle d'une confusion vraiment totale entre les industriels, les ONG, l'État. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'exploitation du bois puisse profiter à la RDC selon Greenpeace?
Oui, je crois que les rapports dont question a formulé des recommandations vis-à-vis de l'État congolais, mais nous avons aussi, parce que notre exploitation du bois dépend énormément du marché européen et actuellement du marché chinois et puis aussi du marché américain. Nous avons formulé un certain nombre de recommandations et la première et la plus grande, c'est que c'est la réglementation qui existe soit respectée. Comme je venais de le dire que non, si j'avais beaucoup de minutes pour quitter un peu les rapports, j'allais vraiment dire à M. Mola que non, la FIC devient la police du gouvernement, quoi, parce que j'ai même lu une des lettres récemment. Je ne voudrais pas en faire écho parce que ce n'est pas de ça il s'agit, que la FIC a écrite au ministère par rapport à un rapport de l'ONGF ce 10 juin. Ça fait voir que non, la FIC est consciente, vraiment consciente, que ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'inégalités au sein de ses membres. Et je pense que non, pour vraiment aider le gouvernement, hormis les recommandations que nous avons faites dans les rapports, il faudra à un moment que la FIB prenne vraiment les bâtons pour essayer de commencer, elle aussi, à former ses membres. Parce que sinon, nous serons dans un cycle infernal. Et parce que quand nous parlons, par exemple, des cahiers de charges signés et tout ça, mais si les communautés étaient bien accompagnées, étaient bien informées avant de signer, il n'y aurait pas eu des avenants. Il y a presque partout des avenants au contrat de concession. Voilà. Est-ce que le monsieur peut nous expliquer pourquoi un contrat bien signé et bien accompagné doit être revu et amendé 3-4 mois après?
Merci.
Donc, ça signifie qu'il y a un problème sérieux, quoi. Je pense que la FIB a un grand travail à faire.
Merci.
Nous devons tout faire pour l'accompagner, pour aider nos forêts à subsister.
Merci. Gabriel Mola, conclusion.
Merci. L'arrêté 023, en son article 3, prévoit la révision de l'accord portant sur la clause sociale. Mais si les gens, en signant, ils avaient demandé qu'on leur amène des ordinateurs comme à Bifale. On a amené des ordinateurs. Ils n'ont pas d'informaticien, ils n'ont pas de courant. Ils se ressaisissent.
Mais vous disiez tout à l'heure qu'ils savaient bien négocier.
S'il vous plaît, laissez-moi.
Allez-y rapidement, l'émission est terminée. Allez-y très rapidement, l'émission est terminée, monsieur Mola.
Et ils se rendent compte que non, c'est pas ça. Ils demandent autre chose. L'accord le prévoit. Les gens ont demandé une école. Ils trouvent que non, un centre de santé. L'accord le prévoit.
Merci beaucoup. Et donc, on peut toujours revoir n'importe quand.
Mais oui, parce que la loi le prévoit.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous la présenter. Guy Maté, Kelin Kouté, Berilou Tchakami, Mikindou, sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, présentation et coordination, Alain Rungmouchich. Au revoir.